Bien, bonjour à tous. Alors, la préparation d'une prédication comporte toujours deux dimensions. D'abord, il faut rassembler de la matière, des idées, puis il faut mettre tout ça en forme pour avoir un discours que vous puissiez comprendre, un discours audible, structuré. C'est plus ou moins difficile selon les compétences, la formation ou l'expérience de chacun. Mais on peut dire que c'est technique. Et donc, dans une large mesure, ça peut s'apprendre. Et puis, il y a la deuxième dimension. Et ça, c'est le message en lui-même, ce qu'on veut transmettre. Et c'est toujours spirituel, entre guillemets, évidemment, puisque c'est une prédication. Mais selon le thème ou le sujet, il y a parfois une profondeur supplémentaire. Il y a une solennité particulière qui vous imprègne tout au long de la préparation et d'une façon plus forte encore que les fois précédentes. Et c'est ce qui m'est arrivé. Plus j'avançais dans cette préparation, et plus j'avais l'impression que j'étais le premier concerné. Plus il me semblait que les mots que je posais sur ma page d'écran s'adressaient directement à moi pour me montrer à quel point mon attitude, ma conduite au quotidien était fréquemment en écart, était souvent en distorsion par rapport à ce que je voulais dire ce matin. Parce que notre sujet de ce matin est un sujet qui revêt une grande solennité. Le nom de l'Éternel, vous l'avez déjà compris avec les chants que nous avons chantés en première partie du culte. Alors la Bible contient de multiples appellations pour parler de Dieu. Alors en voici quelques-unes que vous connaissez certainement. Elohim, Dieu créateur, et dès le premier verset de la Bible, Béa parlait de la Genèse, il lui suffit de parler pour faire que le monde existe. El Shaddai, Dieu tout-puissant, appellation qui fait référence à la puissance suprême de Dieu sur toute chose. Adonai, c'est-à-dire Seigneur, c'est le nom que les Juifs préféraient employer justement pour ne pas prononcer le saint nom de l'Éternel. El Olam, Dieu d'éternité. Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoira, c'est le nom qu'Abraham a donné à Dieu lorsque Dieu a pourvu le bélier destiné au sacrifice à la place d'Isaac. Et puis il y aurait encore d'autres noms qu'on pourrait citer, on va pas les voir tous ce matin. Mais chacun de ces noms de Dieu décrit une des multiples facettes de son caractère ou de sa personne. Et tous ces noms définissent Dieu par ses attributs. Mais comment est-ce que Dieu se définit lui-même? Eh bien, lisons ensemble un passage dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. C'est l'épisode du buisson ardent. Et Moïse s'est approché du buisson en feu, et Dieu lui a ordonné d'ôter ses souliers, parce que même le sol est sacré en présence de Dieu. Et Dieu s'adresse à Moïse, à haute voix, de manière très intelligible. Moïse vient tout juste d'être missionné ou désigné par Dieu pour aller auprès de son peuple et justement dire à ce peuple que Dieu a entendu ses plaintes en Égypte. Alors Moïse pose des questions à Dieu. Et l'une de ces questions essentielles porte sur le nom de Dieu. Moïse craint sans doute que les Israélites soient dans la confusion à cause de toutes les idoles et des faux dieux des Égyptiens. Les Égyptiens adoraient plusieurs dizaines de dieux différents. Et Moïse veut s'assurer que les Israélites n'aient aucun doute sur celui qu'il envoie et au nom de qui il va parler. Moïse veut savoir comment s'y prendre pour identifier aux yeux des enfants d'Israël le seul vrai Dieu. Alors, Exode chapitre 3, nous lisons les versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Je suis celui qui suis. Voilà comment Dieu se définit lui-même. Et ainsi, le nom de Dieu se trouve distingué du nom de tous les autres dieux et de toutes les autres idoles mensongères. Le nom de Dieu est établi définitivement pour toute l'éternité. Toute confusion au sujet du Dieu vivant, le créateur de l'univers, celui qui s'était adressé à Adam et Ève dans le jardin et qui maintenant parle à Moïse depuis le buisson ardent, toute confusion devait être écartée à jamais grâce à cette identification. Je suis celui qui suis, son nom reste le même. Le nom « Je suis » devait servir à identifier Dieu aux yeux des enfants d'Israël qui pourraient avoir ainsi une entière confiance pour aller d'Égypte au désert. Par ce nom, ils sauraient qu'ils suivaient un chef, Moïse, envoyé par le Dieu vivant. Il existe, a existé et existera à tout jamais. Il n'existe pas d'autre Dieu que lui. Son identité pouvait être reconnue par cette simple affirmation de son nom. Je suis celui qui suis. Et ce « je suis » s'applique aussi à Jésus. Et pour ceux qui en douteraient, c'est une preuve de la nature pleinement divine de Jésus. En effet, plusieurs dizaines de générations plus tard dans l'histoire d'Israël, Jésus s'est trouvé aux prises avec un groupe de Juifs qui l'interrogeaient sans ménagement et l'accablaient de sarcasme. C'était parfois dur, les échanges que Jésus avait avec ses contemporains. Et Jésus venait de leur dire que si quelqu'un gardait sa parole, il ne verrait jamais la mort. Tollé et objection parmi les incrédules. Et une dernière question fuse, qui prétends-tu être ? Et voici la réponse de Jésus, telle qu'elle nous est rapportée dans Jean, au chapitre 8, les versets 54 à 58. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et puis le texte poursuit en disant que les Juifs ont alors ramassé des pierres pour lapider Jésus, et Jésus a dû s'enfuir. Mais pourquoi est-ce que les Juifs ont-ils voulu lapider Jésus ? Je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient un profond nom, les Juifs, pour le nom de l'Éternel, puisqu'ils préféraient dire Adonai, c'est-à-dire Seigneur, pour ne pas prononcer le nom Yahvé. Et donc, ils ont voulu lapider Jésus, car si Jésus n'était pas Dieu, c'est qu'il avait prononcé à tort le saint nom que Dieu avait donné à Moïse, le nom qui devait servir à l'identifier, « Je suis ». Pour les Juifs qui ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie, Jésus prend le nom de l'Éternel en vain. En fait, les Juifs reprochent à Jésus d'enfreindre le troisième commandement. Bien sûr, ils se sont trompés lourdement au sujet de Jésus. Et lorsque Jésus utilise ce nom, cette appellation distinctive de Dieu, Jésus ne cherche à égarer personne. Il ne fait que déclarer la vérité. Alors, on va revenir un petit peu justement sur ce troisième commandement. Que dit-il précisément ? Il est cité dans Exode au chapitre 20, au verset 7, et je vais vous le lire dans plusieurs traductions différentes. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est la traduction second révisée en 79. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. C'est la traduction Thomson. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Traduction du Semeur. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. C'est la traduction œcuménique de la Bible. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. C'est la traduction en français courant. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Traduction Parole de vie 2017. J'aime particulièrement ces deux dernières traductions, tout spécialement celle justement de Parole de vie, car on a l'impression que ces deux traductions sont tirées tout droit de la conversation entre Dieu et Moïse. Parce que Moïse jouissait d'un privilège exceptionnel dans la Bible, souvenez-vous-en, il est dit un peu plus loin, au chapitre 20, le verset 33, que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et ce troisième commandement est aussi repris dans le Lévitique, au chapitre 19, au verset 33, sous une forme un petit peu différente. « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Voilà, je pense que vous avez bien écouté toutes ces variations autour d'un même commandement. Et chacune de ces traductions fait ressortir un aspect particulier, mais on retient bien l'idée principale. On ne fait pas n'importe quoi avec le nom de l'Éternel. Dès que son nom même est cité, on rentre dans une autre dimension, en quelque sorte. Et comme Moïse devant le buisson ardent, nous devons retirer nos souliers. Pas nécessairement au sens propre, bien sûr, mais dans la profondeur de notre âme et de notre conscience. Alors, que signifie ce troisième commandement de nos jours ? Ou qu'est-ce qui devrait signifier tous les jours pour vous et pour moi ? Alors, il y a peut-être une chose qui vous vient assez spontanément à l'esprit. Ça concerne les moqueries à propos de Dieu, ou bien le fait de jurer, puisque même les traductions que nous avons lues sont explicites sur ce terme, le fait de jurer ou d'employer des mots vulgaires en association avec des noms qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Alors, avec la déchristianisation de la société, certaines de ces expressions sont devenues désuètes. Aujourd'hui, on les entend moins, sont de moins en moins employées. C'est vrai, et c'est même tant mieux. Mais en contrepartie, on ne se souvient plus forcément d'où proviennent certaines expressions de notre langage courant et quelle est la vraie origine. Alors, je vais vous donner un exemple.
Nom d'un chien.
Pas très méchant, me direz-vous. C'est vrai. Mais à l'origine, c'est une exclamation qui s'employait pour jurer et qui est une déformation de l'expression « nom de Dieu », considérée justement comme blasphématoire. Un autre exemple. Vous avez sûrement vu la trilogie de films « Retour vers le futur ». Alors, les plus anciens connaissent. Mais c'est un film qui rencontre encore un certain succès chez les jeunes aujourd'hui. Et bien dans ce film, le professeur Brown, surnommé Doc, prononce très souvent l'expression « nom de Zeus ». Alors beaucoup n'y voient pas le mal, mais en fait c'est une autre déformation du même juron. Nous devons tous consciemment et régulièrement nous rappeler que lorsque le nom et les attributs de Dieu sont mal employés, déformés ou clairement pris en vain, et bien c'est un blasphème. Et malheureusement, nous vivons dans un monde de plus en plus étranger. Vous l'entendez souvent dire ici, un monde étranger à la notion de sacré et de divin. Paraît que le blasphème est même un droit revendiqué aujourd'hui. Une revendication de plus, me direz-vous ? Oui, en effet, une revendication parmi d'autres, mais celle-ci expose à des conséquences qui peuvent être terribles. C'est une atteinte directe à l'honneur de Dieu et elle ne restera pas impunie. Impunie, c'est le terme qu'utilise la version seconde pour traduire le troisième commandement. À d'autres époques, on peut le déplorer, mais la société dans son ensemble affichait quand même un minimum de respect pour le nom de Dieu. Nos collègues de travail, nos voisins, nos camarades de classe suivent d'autres dieux sans même le savoir. Pour eux, certains mauvais usages du nom de Dieu ou de Jésus font partie du vocabulaire quotidien et servent seulement à donner du relief à leurs paroles. Même si eux ne voient pas le mal et ne cherchent pas toujours délibérément à se moquer de Dieu, ils n'en ont pas conscience. Nous ne devons pas adhérer, jamais. Et puis, dans le cas des moqueries délibérées, là, nous devons carrément fuir. Et il y a matière. Je pense, c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit, les humoristes qui sont nombreux à faire rire aux dépens de la personne de Dieu et de Jésus.
C'est vrai.
Ça détend de regarder parfois
un spectacle à la télé.
Je le fais aussi. Mais n'hésitons pas à faire usage de la télécommande pour zapper les passages qui outragent le nom de Dieu ou de Jésus. Souvenons-nous du psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il y a aussi d'autres manières d'utiliser à tort le nom de Dieu et auxquelles on ne pense pas forcément de suite. C'est un excellent réflexe que d'être horrifié à la pensée de blasphémer, de jurer ou de se moquer ouvertement de Dieu, mais nous pourrions quand même être en danger de ne pas respecter ce troisième commandement. Et un de ces dangers, on peut l'appeler la contrefaçon. C'est si facile d'ajouter le nom de Dieu à une requête,
un ordre,
un message ou bien une promesse quelconque. On entend souvent dire l'expression « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit de te transmettre ce message. Dieu m'a dit de faire ceci, etc. L'emploi du nom de Dieu, comme si on avait reçu une lettre signée de sa part, est quelque chose de très sérieux. Et c'est grave de joindre ce nom à des idées qui ont simplement germé dans notre esprit ou bien pour exprimer des requêtes qu'on adresse à d'autres. Affirmer qu'on connaît exactement la volonté de Dieu, surtout pour son prochain, c'est se mettre à la place du Saint-Esprit qui, lui, doit conduire le peuple de Dieu de façon personnelle. Ça aussi, ça a été rappelé, de façon personnelle et individuelle. C'est donner une fausse image de Dieu en décidant quel message ou directive il adresse aux gens qui nous entourent et quel que soit le domaine, l'usage de son temps, de son argent, de ses talents, de ses biens, etc. Réfléchissons toujours à deux fois avant de prononcer ce genre de paroles et posons-nous la question, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ? Il faut se plonger dans la Bible, la parole de Dieu, et la méditer. C'est là que Dieu a apposé sa signature. Et prions tous les jours pour garder le canal de la communication avec Dieu ouvert via le Saint-Esprit. Il faut utiliser avec sérieux le nom de Dieu, même si cela peut paraître à première vue un usage spirituel de son nom. Utiliser le nom de Dieu dans le but d'appuyer nos propres idées, ou bien d'exercer notre autorité sur des gens qui devraient s'approcher de lui directement, c'est en fait une transgression du commandement qui dit de ne pas utiliser son nom à mauvais escient. Et au passage, ceux qui conduisent l'Assemblée ne sont pas exempts de ce risque. Et c'est pourquoi la collégialité, qu'on trouve dès le début de l'Église, dans les Actes des Apôtres et les Lettres de Paul, eh bien la collégialité, c'est un garde-fou. Nous avons tous nos points faibles, nos lacunes et même parfois nos excentricités. Et la collégialité permet de compenser les faiblesses mutuelles. On l'a rappelé aussi la semaine dernière lors de notre atelier du week-end. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu à Moïse et sur l'épisode du buisson ardent. Alors, à propos du phénomène de ce miracle, j'ai lu un article sur un site d'information, le titre suivant. Il n'y a pas eu de miracle, et puis juste en dessous, en sous-titre, la division de la mer Rouge, les 10 plaies d'Égypte et le buisson ardent, ont des explications scientifiques. Alors là, ça a captivé mon attention. L'article date un peu, il a une bonne dizaine d'années, mais il est toujours accessible sur Internet. Alors, pour le phénomène de combustion, Colin Humphreys, qui est un Anglais né en 1941, un scientifique des matériaux à l'université de Cambridge, alors Cambridge, c'est pas rien quand même, il propose la présence d'un gaz naturel ou d'une cheminée volcanique juste sous le buisson. Et il écrit ça dans son livre très sérieux, très documenté, « The Miracle of Exodus », les miracles de l'Exode. Alors, un physicien norvégien, je ne vous donne pas de nom parce que c'est un nom compliqué, un physicien norvégien suggère, lui, que le buisson aurait pu entrer en combustion spontanée par un phénomène de combustion de surface de matière organique. C'est certainement un peu tiré par les cheveux, mais on reste dans le monde des lois de la physique. Parce que pour tenter d'expliquer l'origine de la voix de Dieu, heureusement que vous êtes assis, ça va décoiffer. Benny Shannon, donc c'est un professeur juif hébreu, né en 1948, il est professeur de psychologie cognitive à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et bien, il suggère, alors il a au moins la délicatesse de ne pas affirmer, mais il suggère que Moïse était à ce moment-là sous l'effet de substances hallucinogènes semblables à de l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, je découvre comme vous, c'est un breuvage à base d'écorce de liane utilisé par les chamans des tribus amérindiennes d'Amazonie. En résumé, une drogue. Je savais que Moïse avait traversé la mer Rouge à pied, mais pas qu'il était allé de l'autre côté de l'océan Atlantique suivre une initiation chez les Amérindiens. Allons, redevenons sérieux. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cet homme avance? Il ne fait rien de moins que de traiter Moïse, on l'a vu, ami de Dieu. Eh bien, il traite Moïse comme un vulgaire chaman ou chaman sous l'emprise de psychotropes. Ça a fait sourire, et c'est tellement gros. Mais derrière ça, en avançant l'hypothèse que la voix de Dieu était une hallucination, Shannon tente de jeter le doute sur les fondements du monothéisme. Et on est exactement dans la même lignée que ce qu'a fait Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, à peine 100 ans plus tôt. Voilà. Il faut semer le doute et détruire les fondements du monothéisme. Alors, cette anecdote, qui concerne un article de presse, me permet justement d'illustrer une autre manière d'utiliser le nom de Dieu en vain, qui est cette fois-ci de pratiquer le plagiat à l'encontre de son œuvre. Vous savez ce que c'est le plagiat? C'est copier un auteur en s'attribuant abusivement des passages de son œuvre, mais sans le citer. Alors, vous avez peut-être déjà entendu, il y a des histoires où la famille d'un artiste qui est lésé éprouve de l'indignation et du dépit, va parfois devant les tribunaux, quand les gens ne veulent pas croire que le nom qui est attaché au bas du tableau, que ce nom est faux et qu'en fait, c'est l'œuvre de leur père ou de leur ancêtre, de leur grand-père. C'est lui qui est le créateur véritable de l'œuvre que tout le monde est en train d'admirer. Alors nous, qui adorons le Dieu vivant, le maître de l'univers, le créateur de la terre et des cieux, nous devrions être véritablement courroucés quand son œuvre et sa création sont attribuées à autrui. Et ça arrive souvent, car aujourd'hui, le nom de Dieu est effacé de sa création de plein de manières. Et j'espère que nous nous rendons tous compte du tort qui est fait au nom de Dieu. Nous devons chacun être sensibilisés à ce problème, car c'est un problème, le transfert abusif du nom de Dieu. Et nous ne devons pas l'accepter comme un fait accompli sans éprouver de réaction intérieure ou une forte émotion. Nous ne pouvons pas nous contenter de hausser les épaules sans réagir quand la création tout entière est attribuée à d'autres causes et que le nom du Créateur se trouve complètement omis. Souvenons-nous bien de ces passages qui sont tirés du livre du prophète Ésaïe, c'est au chapitre 40. Les versets 25 et 26, et Ésaïe parle des étoiles. C'est Dieu qui parle d'abord. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Pour aussi lire toujours Ésaïe, le chapitre 42, le verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. » Vous voyez, encore une fois, ça revient. La Bible est d'une constance et d'une régularité. Ça ne peut que forcer l'admiration et le respect. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Conférer l'honneur qui revient à Dieu au hasard et affirmer que tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans l'univers, que tout cela est venu à l'existence purement par hasard, en fait, c'est attribuer justement au hasard tout ce que Dieu a créé. Et c'est une insulte à son nom, tout comme il serait insultant d'attribuer la musique de Bach, ou les statues de Michel-Ange au hasard, ou à la chance, et de remplacer la signature du compositeur ou de l'artiste par le mot « hasard ». C'est pourtant ce que fait notre société aujourd'hui. Notre civilisation du XXIe siècle fait preuve d'une arrogance sans nom. C'est comme si, quelle que soit la discipline, la physique, la biologie, la médecine, l'écologie ou d'autres encore, c'est comme si à chaque fois on disait à Dieu « c'est bon, on a une explication, on a compris, on n'a plus besoin de toi, la sortie c'est par là et merci de refermer la porte en partant ».
C'est comme ça
que se comporte notre société vis-à-vis de Dieu. Alors pour vous, il y a quelques collégiens, mais surtout lycéens et étudiants, vous vous baignez dans des environnements où justement des environnements de transmission de connaissances où tous les modèles et toutes les théories qu'on vous présente, Dieu est systématiquement exclu, toujours. Et ce n'est pas simple de marquer une différence. J'en suis tout à fait conscient. Et moi, lorsque j'étais à votre place, j'étais loin d'être le premier à réagir publiquement. Alors, il ne s'agit pas de se mettre
à perturber
un cours inutilement, ni d'émettre des objections devant un professeur d'université. Mais il faut garder l'esprit vif et la pensée bien claire sur tous ces sujets pour pouvoir réagir au bon moment et aussi même parfois publiquement. Parce que des occasions peuvent se présenter et il faut savoir les saisir. Et là, ça nous concerne tous. Dans tous les cas, lorsque la pensée dominante essaie de s'imposer à nous, qu'on réagisse publiquement, nous devons systématiquement prier. Déjà, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais à chaque fois, nous devons prier, que ce soit en cours, qu'on ait lu un article, qu'on ait lu un livre, ou bien qu'on ait vu un film qui refuse d'admettre que c'est Dieu qui a créé et qui soutient l'univers. Et en ayant ce réflexe, on obéit à l'exhortation que vous pouvez lire dans le psaume 95, les versets 6 et 7. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Pour aussi lire le psaume suivant, 96, au verset 8 et 9, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui vous tous, habitants de la terre. Alors, ne pas utiliser le nom du Seigneur à tort de façon évidente, ça ne suffit pas. Il faut encore l'employer de façon active, je dirais, pendant les moments où nous l'adorons. Même en louant Dieu, il y a toujours le risque de lui rendre des hommages pas très sincères. Des hommages qui ne seraient qu'une manifestation extérieure de louange et d'adoration, mais sans base solide. Et ça aussi, c'est faire un mauvais usage du nom de Dieu. Et nous devrions tous nous examiner régulièrement sur ce point. Nous pouvons prononcer à tort le nom du Seigneur en répétant sans cesse « Loué sois-tu Seigneur, Alléluia !» alors que notre esprit vagabonde. On se demande si on a bien pensé à mettre le four en route pour que le poulet soit bien cuit en rentrant du culte, ou bien on reste préoccupé par tout un tas de choses. Bien souvent, d'ailleurs, ces préoccupations peuvent être légitimes. Ça touche la famille, la santé d'un proche, l'avenir des enfants, des problèmes au travail, de voiture, etc. Sauf que ce n'est pas le moment d'y penser. Si nos bouches expriment l'adoration qui est due au Seigneur en répétant sans cesse certains mots, mais sans y penser, et sans engager notre être tout entier, alors là encore, nous sommes en danger de prononcer à tort le nom du Seigneur. Nous risquons de tomber dans de vaines répétitions, de multiplier des vaines paroles comme le font les païens. Et là, je ne fais que reprendre les mots que Jésus a utilisés dans le sermon sur la montagne. De vaines paroles comme les païens. La vraie louange envers le Seigneur commence à l'intérieur de soi-même. Elle devrait être exprimée de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme, tout comme doit l'être notre amour pour le Seigneur. Nous ne pouvons pas être parfaits, mais nous devons au moins essayer d'être vrais. Nous devons aimer le Seigneur et le louer avec un cœur rempli de reconnaissance, l'esprit plein de la pensée de la merveille de son existence. Il existe, il est. Nous devons songer à qui il est, à ce qu'il a fait et aux promesses merveilleuses qu'il a données. On en verra une à la fin. Le louer, ça nécessite une certaine attention, une concentration, une part de réflexion, des choses qui vont plus loin que la bouche et les cordes vocales. Mais d'un point de vue pratique, comment est-ce que nous pouvons procéder pour prendre chaque jour davantage conscience de ce que signifie ne pas prononcer à tort le nom du Seigneur? Et comment apprendre à mieux honorer son nom comme il se doit? Eh bien, il y a trois domaines qui interviennent toujours: nos pensées, nos paroles, nos actions. Nos pensées, nos paroles, nos actions. Et la parole de Dieu, dans Colossiens, chapitre 3, nous rappelle quels devraient être nos standards. On ne va pas le faire là, mais je vous encourage vraiment à lire tout le chapitre chez vous, Colossiens, chapitre 3. Et vous verrez que dans les 9 premiers versets, c'est l'apôtre Paul qui écrit, nous avons une énumération très explicite de toutes les mauvaises actions dont nous devons nous dépouiller et auxquelles nous devons renoncer, y compris, ce qu'on a vu, la calomnie et les propos grossiers et inconvenants. Et puis, vient, à partir du verset 12, une exhortation positive. Il est question de miséricorde, de bonté, d'humilité, de pardon réciproque, de l'amour agapé. Et puis, Paul termine au verset 17 en écrivant ceci. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Notre sincérité ne se manifeste pas de façon extérieure. Ce qui compte réellement pour Dieu, c'est la foi véritable, le culte sincère, la gratitude intérieure pour son amour et son salut. Bref, ce qui compte réellement pour Dieu, l'attitude de cœur au moment où son nom est invoqué. Alors, j'aimerais terminer par une note solennelle et joyeuse. Et on va lire un passage dans Apocalypse, le chapitre 4, les versets 8 à 11. Et Apocalypse, bien sûr, ça parle souvent du futur. Écoutez bien. Les quatre êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. » Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dans les cieux, personne ne prononcera plus jamais à tort le nom du Seigneur, ni le nom de Dieu, ni le nom de l'agneau. Jamais. Et lorsque nous serons avec lui à jamais, pour l'éternité, nous rendrons respect, gloire et honneur, comme le texte le dit, nous rendrons respect, gloire et honneur au Créateur, et cette fois-ci d'une manière parfaite. Et là, chose absolument extraordinaire, c'est que durant l'éternité, durant la séquence qu'on vient de voir dans Apocalypse, les termes, les noms « Je suis celui qui suis » et « Celui qui est, qui était et qui vient », eh bien ces noms garderont tout leur sens. L'Éternel sera toujours, même dans, je dirais, dans l'éternité, celui qui suit, celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Je suis celui qui suis. Voilà le nom de notre Dieu, de génération en génération. Voilà son nom pour l'éternité. Et j'espère que tout un chacun en est convaincu ce matin. Nous avons un grand Dieu, un très grand Dieu. Amen. Et on va se lever pour chanter El Shaddai. Merci.